Allez, on va se pencher à présent sur ce deuxième round de négociations qui s'ouvre aujourd'hui pour parvenir à un traité contraignant en vue de mettre fin à la pollution plastique. Les discussions se déroulent au siège de l'UNESCO à Paris. Plus de 170 États y participent sous l'égide de l'ONU, mais tous n'ont pas les mêmes ambitions. Alors sur quoi peuvent-elles déboucher ces négociations? Pourquoi y a-t-il également urgence à enrayer la pollution plastique? On en parle tout de suite avec Charlotte Soulary. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du plaidoyer de l'association écologiste Zero Waste France, Charlotte Soulary. Pour mesurer peut-être d'abord l'ampleur de ce problème de la pollution plastique, en quelques chiffres, ça représente quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, chaque année, on produit 400 millions de tonnes de plastique. Et ça ne fait qu'augmenter. Hein, ça, il y a des projections qui disent qu'on va tripler en quelques décennies. Aujourd'hui, on consomme trois fois plus de plastique qu'il y a 25 ans. Donc ça donne une petite idée, et il y en a moins de 10% qui est recyclé.
Et l'un des problèmes, hein, c'est que c'est une pollution au danger multiforme, à la fois pour notre santé, mais aussi pour les écosystèmes et plus globalement pour le réchauffement de la planète. Hein.
Tout à fait. Le plastique, en fait, il y en a absolument partout. Au moment où il est jeté et détruit, il libère des microplastiques qu'on retrouve jusqu'au fond des océans, mais qu'on trouve aussi dans les sols, qu'on trouve dans l'eau qu'on boit et du coup qu'on retrouve dans le corps humain. Donc l'impact du plastique, c'est absolument désastreux sur la biodiversité, sur les espèces marines, etc., mais aussi sur la santé humaine. Et le problème, c'est que 40% du plastique mondial est jeté au bout d'un mois. Donc sa vie est particulièrement courte au plastique, sauf qu'ensuite il reste très 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 longtemps dans les sols, et notamment avec ces microplastiques dont on connaît aujourd'hui les effets désastreux pour la santé, et en particulier en raison des additifs, donc tous ces produits chimiques qui sont rajoutés au plastique, qui ont des effets cancérigènes en particulier, qui peuvent être aussi des perturbateurs endocriniens, et donc qui ont énormément de conséquences pour la vie humaine.
Alors la solution à cette pollution plastique, c'est quoi? C'est une réduction de la production, comme ce qui est envisagé là lors des négociations de cette semaine? C'est le recyclage? C'est l'interdiction pure et simple? Voilà, quelles sont les différentes solutions envisagées?
C'est tout l'enjeu des négociations que de se mettre d'accord sur le niveau d'ambition. Il y a des États qui disent on va lutter contre la pollution plastique en se contentant de recycler, et donc en regardant uniquement la fin du cycle de vie du plastique, donc le moment où le plastique est un déchet. Et il y a d'autres États qui défendent une vision beaucoup plus ambitieuse, qui veulent regarder l'ensemble du cycle de vie, à commencer par la production. Et même si on va un peu plus loin, il ne faut pas oublier que 99% du plastique à une origine fossile. Le plastique, c'est du pétrole. Donc, il faut aussi regarder l'origine extractive et l'ensemble des intérêts pétrochimiques qu'il y a derrière le plastique. Pour nous, la priorité, c'est que lors de cette semaine de négociation, on se mette bien d'accord sur l'objectif de réduction de la production. Pour réduire la pollution, il faut réduire la production. C'est aussi simple que ça.
Et vous êtes optimiste sur le résultat des négociations de cette semaine à Paris ?
Alors moi, ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a quand même déjà une cinquantaine d'États qui ont rejoint ce qui s'appelle la HAC, donc la coalition de haute ambition, dans laquelle il y a l'Union européenne, il y a pas mal de pays africains, des pays d'Asie, des pays d'Amérique du Sud. En fait, une coalition qui défend une réduction de la production et un traité contraignant. Et finalement, des États comme les États-Unis ou la Chine,
Ils ne sont pas sur la même ligne. Hein.
Alors qu'ils ne sont absolument pas sur la même ligne, et parce qu'ils sont eux-mêmes des pays producteurs de plastique importants, de même que les États producteurs de pétrole défendent une vision beaucoup moins ambitieuse. Donc on espère que ces États-là vont finir par comprendre que la majorité des pays veulent aller vers une option ambitieuse et contraignante.
Et justement, que des pays aussi grands et aussi importants que la Chine et les États-Unis ne soient pas sur cette ligne et ne souhaitent pas un traité avec des obligations globales, ça, c'est pas un obstacle à la conclusion d'un accord?
C'est tout l'enjeu d'une négociation. Tout ne va pas se décider cette semaine. Hein. On n'est que sur le deuxième cycle de négociation sur cinq. Donc l'objectif, c'est d'atteindre, de signer un traité d'ici la fin 2024. Pour ça, il faut que les pays un par un rejoignent cette coalition de haute ambition et qu'à un moment donné, on puisse résoudre un par un finalement tous les blocages qui existent. C'est pas du tout infaisable, et surtout c'est tellement urgent qu'il va bien falloir le faire.
Et pas infaisable non plus avec la présence des lobbies à Paris cette semaine, les entreprises du secteur plastique qui sont là pour assister à ces discussions. Ça aussi, ça n'est pas un autre obstacle.
C'est particulièrement grave, effectivement, de savoir que les lobbies du plastique et de la pétrochimie sont présents dans les négociations. Nous, on demande à ce qu'ils soient exclus du centre de négociation. Ça paraît quand même la moindre des choses quand on sait quels sont les conflits d'intérêts en jeu. Maintenant, on sait bien que le lobbying ne se fait pas que dans les centres de négociation. Mais malgré tout, oui, il y a une pression qui existe et on espère que les délégués de tous les pays vont plutôt aller écouter les associations et les scientifiques qui, eux, ont eu bien du mal à s'inscrire et à pouvoir participer aux négociations. Il faut savoir que l'accès au centre de l'UNESCO a été restreint avec seulement un badge par organisation de la société civile, ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont un rôle majeur, qui sont vraiment des parties prenantes pour le coup, par exemple les 20 millions de ramasseurs de déchets dans le monde, donc ces métiers informels qui sont vraiment en première ligne et qui sont les premiers hein, à subir aussi les impacts notamment de ces produits chimiques dangereux dans le plastique. Il y en a quelques-uns des représentants de ces ramasseurs de déchets qui sont venus à Paris pour les négociations, qui avaient un badge et à qui on a dit, bah, désolé, finalement, c'est un badge seulement par organisation, vous ne pourrez pas rentrer. Donc, savoir qui on écoute, c'est particulièrement important aussi dans cette période.
Merci beaucoup, Charlotte Soulary, d'avoir été notre invitée ce lundi sur RFI. Je rappelle que vous êtes responsable du plaidoyer de l'association écologiste Zéro Waste France. Merci à vous.
Merci à vous.